Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur la radio mondiale où nous allons revenir aux affaires plus courantes et notamment aux championnats ou aux compétitions continentales. Les Lyonnaises en demi-finale de la Ligue des Championnes pour la 14e fois de leur histoire. Hier, elles ont éliminé le Bayern de Munich et se sont qualifiées pour retrouver Arsenal dans le dernier carré. Objectif pour l'un des meilleurs clubs du continent, remporter un 9e titre européen, réussiront-elles ? Le fiasco Thiago Motta, la Juventus de Turin, l'entraîneur a été viré durant la trêve alors que la vieille dame l'avait recruté sur un projet pourtant à long terme. Il est remplacé par Igor Tudor, l'ancien Marseillais. Mais Thiago Motta est-il le seul responsable ou l'institution de la vieille dame, de la Juve, est-elle en danger de banalisation ? Les salaires des joueurs toujours très élevés, mais la valeur des footballeurs respecte en France une certaine logique. Le PSG occupe les premières places, l'OM et l'OL complètent le classement des 30 premiers, on va dire, sans surprise. Mais en Ligue 1, les acteurs ne sont pas-ils trop payés en vue des difficultés qu'éprouve ce championnat ? J'espère que ça vous inspirera, ces sujets, n'est-ce pas, Eric Rabé-Sambratana ?
Bien sûr, ça nous inspire. Est-ce toujours, les êtes... salaires des joueurs, toujours.
Surtout les salaires.
Est-ce que, est-ce que vous êtes trop payé, vous ?
Moi, non. Je travaille pour ça, mais c'est compliqué, non.
Bon, bienvenue, Eric, dans cette émission. À vos côtés, Bruno Constant. Bonjour, Bruno.
Bonjour, Annie. Bonjour
Bruno
à tous.
Bruno est trop payé, par contre.
Oui, non, mais Bruno, c'est pas un joueur, donc il a un statut différent. Bonjour Philippe Doucet, Monsieur
bonjour,
Philippe qui nous revient.
Bonjour Madame Annie.
Tout va bien ?
Bon oui, bien sûr.
David Finzel m'a aidé à préparer cette émission et Mathieu De Gueldre est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Gut schickt sich an das Trainer. Klare Ball! Und da ist es doch, Carmen.
Ce centre vers Dumornay, ce ballon qui revient, le deuxième poteau, il atteint. Du Mornay, des Lyonnaises qui reviennent à un but partout. Rogani et qui trouve le franc de Tabitha Chawinga. Le déroulé de l'OL avec Du Mornay qui vient fixer. Elle lève la tête, elle cherche juste au fond. L'incontournable Queen Ada et ses 66 réalisations en 73 matchs de Ligue des Champions. Et l'OL renversant ce soir, victoire 4 buts à 1 face au Bayern Munich en quart de finale, retour de cette Ligue des Champions.
Sur la scène européenne comme hexagonale, il faut donc toujours compter avec les Lyonnaises. Hier soir, elles disputaient leur 150e match de Ligue des Championnes et elles se sont qualifiées en éliminant le Bayern, une formation allemande qui jamais encore ne les a battues au niveau européen. Score final 4-1, mais ça fait 6-1 sur l'aller-retour. Alors, eh bien, évidemment, une énorme satisfaction pour la défenseur de ces fenotes, Selma Bacha.
On a fait une première mi-temps catastrophique, clairement. J'ai pas reconnu mon équipe, on s'est pas reconnu, on perdait tous les duels. À la mi-temps, la capitaine a pris la parole, le coach aussi. Et on devait montrer qui on était, montrer notre caractère et voilà le vrai visage de l'Olympique Lyonnais. Demi-finale, après, le chemin est long pour remporter ce trophée, mais en tout cas très satisfaite et voilà, direction des demi. Hein.
Elles n'ont pas tout bien fait, les Lyonnaises, hier, vous l'avez entendu, encaissant d'entrée donc un but allemand, mais c'était seulement le deuxième de leur campagne victorieuse. Elles sont invaincues et elles ont inscrit au total donc 6 buts aux filles du Bayern. Est-ce qu'elles restent impressionnantes pour vous, ces Lyonnaises, Eric ?
Elles restent impressionnantes, elles sont sûres de leur force. Alors, c'est vrai que cette première mi-temps n'était pas terrible. Mais défensivement, elles ont fait un gros match quand même. Et puis après, quand tu as déjà fait la différence 2-0 là-bas, J'ai quand même l'impression que c'était plus de la gestion qu'autre chose, et derrière, après, c'est facile. Quoi.
Ouais, on dit
quand il y a la qualité de cette équipe de Lyon, c'est facile.
On connaît certaines équipes qui se préparent pour le mois de mars, n'est-ce pas, dans les compétitions européennes, mais elles aussi, finalement, parce que l'adversité, elle n'est pas non plus...
Là, ça va commencer, là.
En demi-finale.
En demi-finale, ça va commencer quand tu as Chelsea, et Barcelone.
Bah, et encore, parce qu'ils sont du bon côté du tableau, avec Arsenal, et les deux grands favorites, c'est plutôt Barcelone et Chelsea. Chelsea s'est qualifié parce qu'ils ont perdu.
C'est pas fini, il y a encore des matchs ce soir. En tout cas, les buteuses, on va quand même les nommer, parce que la première, c'est une haïtienne qui s'appelle Melky Dumornay, et c'est son 10e but de la saison. Bon, ensuite, on avait Kadidiatou Diagne qui a été une des meilleures lyonnaises hier soir.
C'est une joueuse extraordinaire.
Exactement. Et sur sa lancée, on va dire. Hein, elle a marqué aussi. Il y avait la Malawite, Tabitha Chawinga, qui a eu, si je ne me trompe pas, un trophée UNFP, hein, c'est ça
Oui, je crois aussi.
C'est peut-être pas le trophée, peut-être un ballon.
Non, mais c'est une joueuse extraordinaire, vraiment, qui est arrivée du Paris Saint-Germain et c'est une grosse perte pour le Paris Saint-Germain, je le sais très bien. Quand j'ai vu les matchs qu'elle a été capable de faire, je comprends bien pourquoi Lyon est venu les chercher. Mm-hmm, bon, elle est bien payée aussi, attention, j'ai vu. On l'a vu le journal, elle est bien payée, donc je comprends pourquoi elle est partie.
Oui. Et puis,
il y a quand même donc un sport où le PSG n'est pas celui qui paye le mieux. Apparemment.
Voilà, apparemment.
Ouais, ça existe.
Il y a une catégorie en tout cas.
Et puis, il y a la Norvégienne Ada Hegerberg qui, elle, a inscrit son 66e but en Ligue des Champions. Bon, on sait que chez les filles, donc c'est plus simple que chez les garçons.
Non, mais en plus, quand on écoute là, tu regardes les noms qu'il y a dans cette équipe offensivement, il y a quand même un potentiel assez fort. Donc, c'est pour ça qu'elle est aussi une des favorites.
Oui, et c'est peut-être ça, Philippe, qui est intéressant aussi dans cette équipe lyonnaise, c'est malgré tout la foi et le talent qui continue, voire la persévérance et l'objectif, alors que, par exemple, la saison dernière, il y a eu énormément de changements. Sonia Bonpastor, qui était leur entraîneur, a été remplacée par un Australien qui s'appelle Joey Montemuro. On a ensuite eu ce changement de propriétaire, Jean-Michel Aulas, qui a revendu à Textor, qui lui a revendu à une Américaine qui s'appelle Michelle Kang, c'était peut-être pas l'année dernière, mais ces derniers temps. Elles n'ont quand même pas gagné le titre. Elles en ont gagné 8 depuis 2011, mais elles ne l'ont pas gagné depuis 2022. Et là, on les sent motivées.
Oui, quand vous disiez tout à l'heure qu'elles elles sont toujours impressionnantes, moi, je pense qu'elles sont redevenues impressionnantes.
Oui.
Parce que, honnêtement, ça s'était
elles
un peu effiloché. Hein. Lyon, PSG étaient au duel, mais
justement, peut-être
pas
d'avoir
forcément...
perdu Jean-Michel Aulas, qui les a quand même parrainés si longtemps et
oui, mais
et
elles étaient en danger de mort avec la version actuelle de l'OL, avec Textor, qui s'en est très vite débarrassé pour tout simplement récupérer des fonds, parce qu'il avait besoin d'argent pour déjà racheter le club, parce qu'il n'a toujours pas payé Jean-Michel Aulas, je dis au passage, mais et qui risque d'être on va pas rentrer dans les affaires judiciaires, mais ça va sûrement débouler sur l'OL dans peu de temps, et en tout cas il a besoin d'argent pour financer le club tout simplement au niveau masculin, et du coup Michel Kang a repris effectivement la version féminine. Et cette version-là est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus armée, même financièrement, que ne l'était l'ancienne version de l'OL. Donc, ça permet à l'OL de revenir au moment même où le football féminin en France, honnêtement, se porte très mal. Vraiment, tout ce qui est fait aujourd'hui...
La dynamique de 2019,
elle est très mauvaise. La dynamique est très, très mauvaise, sauf l'OL, qui, du coup, au championnat, alors là, domine de la tête et des épaules.
Et c'est ça qui est aussi, des fois, un peu... qui rebute un peu quant au football féminin. Bruno, c'est ces hyper-dominations de certaines équipes dans les championnats nationaux, comme sur la scène européenne. Je vous ai vu lever les yeux au ciel quand on parlait de leur campagne et du fait qu'elles ont déjà fait une bonne campagne, mais qu'elles commencent à s'exciter dans le dernier carré européen. Elles n'ont aucune défaite en championnat de France, à 12 clubs, on le rappelle. Un seul nul, je crois.
Hein,
ouais.
Bon.
Non, mais oui,
il y a trop de disparités encore, je dirais, dans l'ensemble. On va venir après à ce carré final. Mais dans l'ensemble du football féminin, on le voit même quand même en Coupe du Monde.
Oui, on le voit par exemple dans la première ligue féminine, qui est quand même où il y a beaucoup plus d'argent mieux réparti sur les différents clubs, parce que tous les clubs professionnels de première ligue ont l'obligation d'avoir une équipe féminine. Et on voit que Chelsea caracole en tête de la première ligue, parce qu'il y a des gros investissements qui ont été faits.
Mais oui, on voit la domination du Barça ces derniers temps.
Le Barça, pour le coup, qui a beaucoup travaillé par rapport à la formation, aux joueurs, c'est un football différent, et eux, ils ont quelque part quelques années d'avance. Mais tant qu'il y aura autant de disparités aussitôt dans la compétition, bah forcément le grand public il aura du mal à s'identifier. La compétition elle commence dans l'année carrée. Les quatre meilleurs, et encore quand je dis quatre, c'est surtout le Barça, Lyon, Arsenal est un cran en dessous, et Chelsea s'y se qualifie, mais ils ont deux buts de retard face à City. Mais tant qu'il y aura ces disparités, qu'on n'aura pas plus d'homogénéité, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent par rapport aux gardiennes. C'est un truc qu'en Angleterre, on en a reparlé
récemment.
Avec des gardiennes qui sont trop courts par rapport au but. Est-ce qu'il faut rétrécir les buts? Est-ce qu'il faut rétrécir le terrain? Pour moi, c'est un vrai débat parce que les meilleures équipes, elles font souvent la différence parce qu'elles voient le jeu plus vite et quand il y a plus d'espace, bah, ça devient beaucoup plus facile. Mmh. Et tant qu'on n'aura pas résolu ça... Mais ça avance, hein. Après, il faut se souvenir du football féminien il y a 10 ans.
D'où il part, c'est pour ça.
L'émergence du FC Barcelone et le jeu du FC Barcelone a beaucoup progressé.
Alors justement, les demi-finales auront lieu 19 et 26 avril prochain. Pour les Lyonnaises, ça sera leur 14e demi-finale dans la compétition. Donc on voit une certaine assiduité et régularité. Ça sera contre Arsenal qui a éliminé hier soir les filles du Real Madrid. Elles ont renversé la situation en plus parce qu'elles avaient perdu à l'aller et là elles ont gagné au retour. Sont-elles toujours les favorites de cette compétition? Eh bien, on va écouter l'entraîneur des filles d'Arsenal, la néerlandaise Renée Slager, qui est aussi ancienne joueuse.
C'est important pour le club, pour l'équipe, pour les joueuses. Elles jouent à Arsenal parce qu'elles veulent aller loin dans les tournois, elles veulent gagner des titres et elles veulent briller sur la scène européenne. C'est donc très important pour nous. Je suis vraiment heureuse d'être en demi-finale. Nous allons jouer Lyon, je sais que c'est une équipe de premier plan, au sommet en Europe depuis longtemps. C'est un challenge, mais nous reculons devant aucun défi. Au contraire, nous l'attendons avec impatience.
Alors, les Lyonnaises sont-elles toujours les favorites de ce dernier carré, Eric?
Ce soir,
on aura Barcelone contre Wolfsburg. Elles ont gagné 4-1 à l'aller et elles jouent le retour chez elles. Ouais. Par contre, Chelsea-Manchester City, effectivement, là, il peut y avoir du spectacle.
Grosse surprise.
Elles ont gagné 2-0 au départ, les filles de Manchester City, mais elles vont jouer à Chelsea ce soir.
Deux entraîneuses françaises à la tête de Chelsea et qui font du très bon boulot.
Ouais. Et qui joueront à domicile ce soir. Et qui sont en tête du championnat.
Je pense que Barcelone a quand même
de l'avance.
Ouais, mais j'ai envie de dire sur la dynamique. C'est-à-dire que Barcelone, c'est l'équipe nationale quasiment d'Espagne. Donc du coup,
Lyon, s'en rapproche.
Oui, oui, bien sûr.
En dehors des étrangères.
Sauf qu'elles gagnent. Les Espagnols, elles gagnent au niveau international. Les Françaises ne gagnent pas encore au niveau international. Donc il y a quand même une marge, une petite marge du côté Barcelone. Mais dans l'expérience et dans la gestion de ces affiches, je pense que Lyon est capable de faire quelque chose jusqu'au bout.
Philippe, vous les voyez aussi
Pas grande favorite, parce que Barcelone, c'est...
Finaliste,
Barcelone
quand même.
Barcelone est très bon, Chelsea est capable également. Il y aura une finale.
Mais vous les voyez en finale quand même, déjà.
Il n'y a pas eu beaucoup de tournois pour l'instant, mais maintenant, ça va commencer.
Les favorites pour aller en finale.
Ah oui, par rapport à Arsenal, elles sont favorites. Oui, tout à fait.
Bon, en tout cas, les Bleus, eh bien, elles pensent aussi sans doute à l'Euro, parce que c'est en juillet prochain qu'elles disputeront la compétition. En attendant, il y a donc une Ligue des Nations féminines, là aussi, et elles ont des matchs face à la Suisse et à la Norvège. Et,
ça, pour le coup, c'est une bonne chose. C'est qu'on en avait parlé ici avec Étienne Moiti. C'est moi qui avais soumis l'idée à l'époque où le football international féminin balbutiait. On avait vu l'exemple des garçons, la Ligue des Nations, qui avait resserré un peu les niveaux. Et les équipes d'un même niveau jouaient dans les mêmes poules. Et c'était intéressant parce qu'elles progressaient. On voit la Grèce aujourd'hui qui a énormément progressé chez les garçons. Et le fait d'avoir une Ligue des Nations féminine, je trouve que ça va aider les petites équipes internationales à hisser leur niveau, à progresser. Mmh. Ça, c'est une bonne chose.
Et donc, elles joueront les filles face à la Suisse et à la Norvège. Et le sélectionneur, Laurent Bonadei, a publié sa liste ce matin. A noté le retour, mais ce n'est pas très surprenant, des deux exilés de San Diego que sont Delphine Cascarino Et le deuxième nom m'échappe, mais c'est ces deux joueuses qui sont ouais, régulières qui sont là, dans, général, cette ouais. équipe, dans cette équipe des Bleus et sur lesquelles on compte évidemment pour l'Euro prochain. On continue, on va vers l'Italie.
Bakayoko, il controllo in area, ancora Bakayoko, forte in mezzo, il pallone passa e Flamingo trova il gol del 3-1. Non c'è più tempo, fischia Vincic, il PSV si qualifica agli ottavi di finale della Champions League
2024-2025.
La cosa sulla rete, il vantaggio della Fiorentina. Fiorentina 1, Juventus 0, numero 3 della Fiorentina. Fiorentina 3, Juventus 0, De Luca. Tiro, rete, Zappacosta, 3-0 Atalanta.
La Juventus a Torino per 4-0.
C'est une saison terrible pour la Juventus.
Nous voilà en Italie, évidemment. Il était l'un des meilleurs espoirs italiens sur un banc, mais il n'aura tenu que 8 mois à Turin. Thiago Motta, remercié, ou doit-on dire évincé, dimanche dernier. Une décision prise durant la trêve internationale, donc, et à l'issue d'une mauvaise passe pour la Juve, éliminée successivement de la Ligue des Champions, de la Coppa Italia, et qui n'est que cinquième en Serie A après deux grosses défaites en championnat. On va tout de suite en parler avec Matteo Cioffi, notre correspondant en Italie. Bonjour Matteo.
Bonjour, bonjour Annie, bonjour à tous et bonjour à tous nos écouteurs.
Matteo, on savait les critiques dont Thiago Motta était l'objet, hein. On en parlait ici dans ce championnat, mais à 9 matchs de la fin de la saison, est-ce que cette démission a été surprise? Est-ce qu'on parle de fiasco en Italie?
Bah, sincèrement, je m'y attendais pas, et c'est là déjà pour un simple discours économique. Soulever Thiago Motta de son poste coûtera la Juve 15 millions d'euros qui en ce moment où le club essaye de réduire ses pertes ne correspond pas à une balade de santé pour les caisses de la vieille dame. Puis, si on se concentre sur l'aspect sportif, alors là, la question qui doit se poser est: Thiago Motta est-il le seul coupable pour l'opinion publique? La réponse est unanime. Non, ce n'est pas un bouc émissaire, mais ce n'est pas le seul qui a commis des erreurs.
On va y venir sur l'institution Juve, mais d'abord, quand même, Matteo, le départ de Thiago Motta, il est assez violent dans les circonstances et même vis-à-vis d'un vestiaire avec lequel il apparaissait pas mal en conflit.
Bah, certainement, il n'y a pas eu coup de foudre entre l'entraîneur italo-brésilien et les joueurs. Seulement deux d'entre eux l'ont salué à son départ, c'est-à-dire le Belge Mbangula et le Brésilien Bremer. Les autres sont restés en silence, tandis qu'on a vu des likes sur les réseaux sociaux en dessus de la nouvelle du recrutement de Igor Tudor. Likes qui ont été émis par Federico Chiesa, Danilo, Fagioli, c'est-à-dire ceux qui ont été vendus ou prêtés à d'autres clubs, car Thiago Motta les a exclus de son projet.
Mmh, ouais. Philippe Doucet, l'éviction de Thiago Motta, quand on regarde quand même ce qu'il a fait, d'abord en 8 mois, c'est 8 défaites seulement sur 42 rencontres. Bon, alors évidemment, des défaites qui malheureusement font tâche. On se souvient que Matteo nous avait dit qu'il était surnommé Monsieur Nul là-bas, parce que pour 13 victoires en championnat, il y a quand même 13 matchs nuls.
Ce qui est un problème.
Oui,
ça fait beaucoup de points perdus.
Je suis pas sûr que ce soit un problème. Hein.
Moi non plus.
Ah bah,
moi non plus, parce que
évidemment, pour les résultats, Eric. C'est un problème. Mais c'est un problème pour les résultats. Mais un nul, ça veut dire que tu es en train de mettre des choses en place, que tu es qu'à 40 matchs. Donc 40 matchs, c'est quand même pas énorme pour avoir un travail, pour mettre quelque chose en place. Je suis désolé, hein, je trouve ça surprenant quand même qu'il se fasse virer.
Alors, j'ai la sensation qu'il n'a pas été viré uniquement pour les résultats.
Ça soulageait, je pense, tout le monde.
Ce que Matteo vient de dire, c'est que l'adhésion ne marche pas avec les joueurs, ça ne marche pas non plus au-dessus avec ses dirigeants, directeurs sportifs, etc. Je pense que c'est ça plutôt qui a précipité sa chute, parce qu'effectivement, Motta, il signifiait quelque chose quand il est arrivé. Il signifiait le côté, bon, maintenant, on arrête un peu, on s'arrête un peu, et on va faire un vrai projet, et on a le temps. C'était, il me semblait que ça correspondait à ça. Or, s'il est viré aussi vite, c'est soit que ce discours était fantoche, soit que ça passait pas du tout, quoi, que ça marchait pas du tout, et que là, il y a un moment où, vous savez, quand l'entraîneur il passe pas, vous êtes dirigeant, quand l'entraîneur il passe pas, que ça marche pas, les joueurs et autres, au bout d'un moment, vous dites bon, j'y arriverai pas.
Si tu veux une rupture avec le passé, et c'était le cas du nouveau projet, il y avait une rupture, on voulait une rupture avec le passé.
Sur trois ans quand même.
Avec Allegri, un football négatif, restrictif, on voulait un football, le football de Thiago Motta à Bologne, mais il l'a pas fait en 8 mois non plus, hein, ce qui s'est passé à Bologne.
En 2 ans.
Ils ont rajeuni l'effectif, c'est le deuxième effectif le plus jeune de Serie A. Ils ne sont cinquième, c'est pas catastrophique, ils sont pas huitième ou neuvième.
Puis ils sont très près de la quatrième place.
Ils sont très loin de la tête.
Près de la quatrième qui est qualificatif pour la Ligue des Champions.
On n'imaginait pas la Juve jouer le titre cette saison, pas dans un nouveau projet. Et puis surtout, si tu fais un nouveau projet, il faut laisser le temps. Et ça veut dire qu'il faut...
Je pense que vous allez nous donner l'exemple d'Arteta, bien sûr.
Ouais, il y en a plusieurs, mais il faut reconstruire un effectif et ça se fait pas en une saison. Ils ont dépensé 200 millions, près de 200 millions sur une saison, c'est plus que tous les autres clubs italiens. Et à un moment donné, il faut laisser le temps. Mais des clubs, effectivement, il y en a plein d'exemples, des clubs qui ont eu du mal sur la première année ou des entraîneurs qui ont eu du mal sur la première année avant de réaliser quelque chose de grand. Jürgen Klopp, c'est le plus bel exemple à Liverpool. La première année, il fait moins bien que son prédécesseur et puis après, ça monte en puissance. Arteta, c'est pareil. Les supporters, les dirigeants pensaient à le virer au bout d'un an et demi. Mm-hmm. On a vu ce qui est arrivé derrière. Mais je comprends pas ce que veut la Juve, en fait. À un moment donné, l'effectif qui est en place, qui n'était pas content de Thiago Motta, mais qu'est-ce qu'a fait cet effectif depuis 3 ans ?
Mathéo, vous avez peut-être des réponses à apporter à Bruno, parce qu'on sait aussi que les recrutements, ça n'a pas été une grande réussite.
Ben non, ça a été... Ben, je ne parlerai pas d'échec, mais quelque chose qui lui ressemble. Vous l'avez dit, la Juve a dépensé 234 millions d'euros cet été, qui est, à mon avis, un chiffre énorme. Et pour faire quoi ? Pour acheter des joueurs qui, en ce moment, sont loin de leur meilleur niveau. On attendait beaucoup plus. Prenez, par exemple, les 3 joueurs plus chers et plus attendus, qui sont, pour l'instant, visiblement au-dessus de la suffisance. Je parle du Néerlandais comme Maier, payé 51 millions d'euros, qui en ce moment passe complètement à côté de la plaque. Pas mieux le Brésilien David Luiz, coûté à son tour 50 millions d'euros, qui cette année, à cause des blessures, a dû renoncer à plus de matchs que dans toute sa carrière. Blessé, mais aussi inconsistant sur le terrain, l'Argentin Nico Gonzalez, transféré pour 33 millions d'euros. Pour lui, un championnat avec un seul but en 17 apparitions et 2 passes décisives. Honnêtement, trop peu pour cet attaquant qui l'année passée avec le Dossard de la Fiorentina avait réalisé 12 buts.
Mm-hmm. Ouais, tu perds aussi ce qui est pour moi ton meilleur défenseur, Bremer, au mois d'octobre. Grave blessure et forcément, ça déstabilise une équipe. Vlahovic, on pourrait en parler de Vlahovic. Hein. Il a pas répondu aux attentes malgré son énorme transfert il y a quelques années. Et puis, tu as pris des jeunes joueurs. Kefren Thuram, c'est un jeune joueur. Il faut laisser le temps de se développer.
Bah, Mathéo pense que c'est quand même une des meilleures recrues.
Et en plus, oui, mais donc, ça veut dire qu'il faut laisser le temps à ce groupe. Douglas Luiz, il était blessé quasiment la moitié de la saison. Mm-hmm. C'est un super joueur. Il était très bon à Aston Villa. Tout ça, il faut laisser du temps.
Et Mathéo, j'ai une question. Est-ce que ça a changé quelque chose de garder Motta jusqu'à la fin de la saison par rapport à son contrat ou quelque chose comme ça, je ne sais pas.
Bah, je l'ai dit au début de mon intervention, ça coûte 15 millions d'euros
le fait de l'avoir. C'était pareil là à la fin de la saison.
Éloigné. Donc, à mon avis, si j'étais le président de la Juve, mais qui est le président de la Juve aujourd'hui, on le sait pas. Si j'étais le président, j'aurais pas fait ce choix et j'aurais continué avec Thiago Motta jusqu'à la fin, parce que je ne sais pas, mais à mon avis, c'est vrai, c'est pas une saison magnifique, celle de la Juve. Mais ils sont tout de même en course pour la 4e place. Il y a d'autres équipes et vous savez bien de qui je parle, qui sont encore plus loin de la Juve de cette 4e équipe, qui veut dire participer à la prochaine Ligue des Champions et qui veut dire mettre de l'argent dans les caisses, qui, dans le football moderne, est devenu la conditio sine qua non pour rester compétitif et en vie, peut-être.
En tout cas, il y a eu une certaine désillusion, un certain désarroi autour du travail quand même qu'il a effectué avec ce groupe. En tout cas, Thiago Motta, écoutons Alessandro Del Piero. C'était juste après la dernière défaite de cette équipe. C'était face à la Fiorentina, un 3-0, après avoir encaissé aussi une déculottée face à une autre équipe. Et c'est vrai qu'on entend Del Piero un peu paumé, l'ancien de la Juve.
Il n'y a eu aucune réaction sur le terrain, ni sur le banc, car les trois premiers changements ont été trois défenseurs. Tu es donc mené 3-0 et tu fais rentrer trois défenseurs ? Il doit y avoir des raisons derrière cela. Je ne suis pas en train de blâmer les joueurs, ni Thiago Motta ou le club. C'est sans doute un problème plus général, d'environnement peut-être. Après ça, on ne peut pas rester sans réaction derrière, quand on est pris de cette manière dans une spirale infernale.
Matteo, c'est d'une façon générale qu'elle surprend ou qu'elle déçoit cette Juve.
Ouais, c'est une désillusion et inquiétude liée à ce fait que l'équipe n'a pas eu une réelle identité, parce que trop souvent soumise à des changements de joueurs autour d'un seul chemin de jeu, le 4-2-3-1, qui a été toujours le même. Il n'a pas changé, Thiago Motta. C'était les effectifs qui changeaient chaque fois. Devinez l'équipe de la Juve à la veille de chaque match, c'était comme je sais pas, jouer au loto. On savait vraiment pas qui allait jouer et qui allait être remplaçant. Et puis, j'ai entendu que vous en avez parlé. Dans le 11 titulaire, on comptait, dans la première partie de la saison, beaucoup de jeunes, chose ravie à l'opinion publique et aux supporters. Jeunes qui, soudain, même en ayant bien fait, se sont retrouvés sur le banc des remplaçants, sans vraiment des grandes explications. C'est le cas, par exemple, du Belge Mbangula, de l'Italien Nicolas Savona, mais aussi du Turc Yidiz, qui, à mon avis, retrouvera une place de titulaire avec Tudor. Autre proche adressé à Thiago Motta, être responsable de cette absence de réaction, Del Piero l'a dit, après une raclée, rien de tout, sinon quelque chose d'encore pire. Regardez ce qui s'est passé après l'élimination en Ligue des Champions face à Eindhoven. Les matchs qui ont suivi en championnat ont été un désastre. Piétiné 4-0 par l'Atalanta et 3-0 par la Fiorentina. Deux chaos qui ont montré aux yeux de tous l'indifférence de ces joueurs et surtout, là, on a compris que leur lien avec le technicien s'était brisé, ou encore plus simplement, il n'a jamais eu lieu.
Mm-hmm. Est-ce que aussi, finalement, la Juve n'a pas été victime de tout ce qu'on disait, tout ce qu'on prêtait à Thiago Motta, Eric? Je me souviens que même ici, à un moment au PSG, quand on ne trouvait pas d'entraîneur, on se dit « Oh ben, il y a peut-être Thiago Motta, l'ancien du club, le fameux numéro 6 qu'on n'a jamais retrouvé. »
La saison passée,
ça.
On disait oui. Même qu'on avait regretté d'avoir pris Luis Enrique, alors on aurait dû prendre Thiago Motta. Mm-hmm. Comme quoi, ouais. Ça va vite. Hein.
C'est pour ça.
Bien sûr. Non, mais après.
Est-ce que vous pensez qu'il a été surcoté ? Est-ce que vous pensez que simplement on lui a pas donné les moyens ? Alors que Bologne, d'une certaine façon, lui avait donné des moyens.
C'est un jeune entraîneur, on lui a laissé un peu le temps de travailler aussi. C'est surtout ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce que tu peux observer de Thiago Motta à la Juve, c'est juste quelqu'un qui essaye des choses et qui. Soit ça répond avec les joueurs. C'est-à-dire que les joueurs adhèrent tu parlais du schéma tactique, ça plaît ou ça plaît pas, mais les joueurs, quand tu changes tout le temps, quand t'es joueur et que tu changes tout le temps, les joueurs n'aiment pas ça, évidemment. Donc, il faut toujours trouver un responsable. Soit tu te remets en question, soit c'est l'entraîneur qui fait pas les bons choix. Je pense que là, aujourd'hui, du fait qu'il soit viré, c'est assez facile de se dire, ouais, c'est à cause de l'entraîneur, tout ça. Mais moi, je pense aussi qu'il y a une vraie part de responsabilité des joueurs.
Ah, mais oui.
Et de la prestation et de l'implication dans le travail. Parce que là, tu prends Tudor. Tudor arrive.
Le colonel, là où je sais pas comment on l'appelle, le sergent.
Si t'es pas prêt à travailler avec Tudor, je peux te dire qu'il y en a plein qui vont pas jouer dans cette équipe de la Juve, c'est sûr.
Tu pars encore sur un autre projet, un autre football.
Ah ouais. Moi,
pour 9 matchs. L'exemple, c'est un contrat jusqu'à la fin de saison.
Ah, c'est même pas d'accord.
L'exemple d'Arsenal et d'Arteta, il est intéressant parce qu'Arteta, quand il arrive, il veut mettre en place un projet de jeu, mais il veut aussi changer les mentalités. Et il voyait, sur sa première saison, il a vu que les mentalités n'étaient pas suffisamment bonnes pour lui en tout cas, pour mener le club plus haut. Et il a commencé à évacuer tous les joueurs qui n'intégraient pas son attitude. Et il est très très dur. Hein. Mmh. Il a écarté Aubameyang, il a écarté Lacazette, il a écarté pas mal de cadres. Et il a changé l'effectif d'Arsenal, qui s'est rajeuni, mais avec des joueurs qui sont prêts à jouer son football.
Ah oui.
Et pour moi, si tu pars vers un nouveau projet avec un nouvel entraîneur, tu ne peux pas lui faire confiance sur 9 mois. Fais confiance sur au moins 2 ans
qu'il mette
en place
son
jeu. Et je pense que Thiago Motta, il veut aussi changer les mentalités à la Juve cet effectif. Mmh. Et si on ne lui laisse pas le temps, il ne peut pas y arriver.
Philippe, est-ce que quand quelqu'un dont on attendait beaucoup, qui était très attendu, se grille quand même comme ça en étant viré en si peu de temps, mais est-ce qu'il a des circonstances atténuantes ? Est-ce qu'il peut rebondir selon vous ?
Je pense que sa cote, elle prendra sûrement un petit coup, hein, forcément, parce que en plus, surtout il y a eu quelques déclarations pas très
sympa.
Pas très sympa sur son travail, sur la qualité de son travail. Ça, c'est très gênant pour un entraîneur. Qu'à la limite, si on juge uniquement sur les résultats,
ça peut arriver.
La Juve n'a pas été bien meilleure l'année d'avant. Enfin, il n'y avait pas un écart gigantesque. Franchement, la saison qu'il a fait sur le strict plan des résultats, elle n'est pas honorable. Mais bon, elle n'est pas.
8 défaites sur 40 matchs.
Elle n'est pas dramatique à l'échelle d'une carrière d'un entraîneur. Par contre, ce qui s'est dit, les choses qui se sont dites, qu'il travaillait mal, qu'il n'était pas exigeant, que ceci, cela, ont surpris d'abord, parce qu'on ne voyait pas du tout Thiago Motta comme ça. Alors, est-ce que c'est un ressenti d'intérieur de la part de dirigeants qui eux-mêmes n'ont pas une cote extraordinaire?
Ils n'ont pas donné
des garanties absolues. Donc, est-ce que ça va atténuer ou pas la cote de Thiago Motta? C'est toute la question. Parce que, effectivement, le passage dans les grands clubs est vraiment un cap terrible pour un entraîneur.
La conclusion est rapide.
La conclusion est très rapide. Ouais. Ah, il ne peut pas entraîner à ce niveau-là, on laisse tomber, on le prendra quand on sera à la Fiorentina ou autre,
Quel est le dernier entraîneur qui a réussi à la Juve ces dix dernières années?
C'était celui qui vient de partir.
Allegri, mais pas là. Ça datait de
le mandat d'avant.
On s'en souvient.
Et depuis, ça a défilé les entraîneurs à la Juve avec des profils totalement différents. Il n'y a pas eu de réussite.
C'est déjà indicateur.
Matteo, pour terminer, mais cette grande institution qu'est la Juventus, qui a tant de mal à finalement exister dans le championnat actuellement, qui se fraye un chemin, mais pas toujours sur le podium, enfin dans les quatre premières places pour être européen la saison d'après. Est-ce que selon vous, c'est une institution encore fiable, encore, ou alors à la dérive, peut-être à l'image des entreprises automobiles, parce que ça ne va pas franchement bien non plus pour le sponsor principal qui est Fiat dans le groupe Stellantis, si je ne me trompe pas.
Oui.
Matteo.
Oui, mais Tesla va pire que Ferrari et Fiat.
Mais il n'a pas d'équipe de
foot. C'est vrai. Heureusement.
Il en aura bientôt une, je pense.
Pas sûr.
Écoutez, la Juve, c'est une institution, la Serie A sans la Juve, honnêtement, il y a quelque chose qui peut coincer. Mais on commence à voir que le championnat italien est devenu certainement plus compétitif par rapport aux dernières années. Vous vous rappelez, la Juve a gagné 9 titres d'affilée depuis 4 ans et n'arrive plus à gagner ce Scudetto. Elle a gagné une Coupe d'Italie l'année passée. Mais c'est tout. On commence à s'habituer à un autre genre de défi au sommet. Aujourd'hui, il y a l'Inter, il y a le Napoli, et surtout, il y a des nouvelles, entre guillemets, des nouvelles équipes qui arrivent, et on les a pas vues arriver, comme par exemple Bologne, Fiorentina, Lazio. C'est ça, le nouveau football italien qui, à mon avis, rend le tout plus passionnant. Certainement, la Juve vit un moment difficile, mais je suis sûr que dans quelques années, j'espère dans au moins 10 années,
pas trop tôt quand même.
Matteo adore les Bianconeri. En tout cas, la Juve jouera samedi, ça sera contre le Genoa de Patrick Vieira. Matteo, juste une petite chose pour terminer avec vous. En Italie, au cours de la semaine prochaine, il y aura une grande première mondiale. Les arbitres vont parler, mais vont parler dans un micro.
J'ai peur seulement l'idée. c'est vrai, l'Italie est encore pionnier de la VAR. En 2017, ce système technologique avait été introduit en Serie A en parallèle avec la Bundesliga allemande. Et maintenant, un autre pas innovatif, l'arbitre sera équipé d'un micro pour expliquer au public du stade son choix lié à la VAR. Un peu comme on a déjà vu dans le rugby. Ce sera donc un test prévu la semaine prochaine lors de deux matchs de demi-finale de la Coupe d'Italie, Empoli-Bologne et le super derby milanais Milan-Inter. Je serai au stade et je vous en dirai plus après le match.
Vous nous raconterez.
Mais ce n'est pas une première mondiale.
Non.
Elle a eu lieu en janvier avec l'Angleterre, les demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise.
Mais l'an dernier, la Copa América.
Et la Copa América au niveau international.
Tu parles au micro.
Oui, bien sûr. Oui, oui. L'arbitre parle au micro, oui. Explique sa décision oui. Après.
En temps, mais là, on parle que pour la VAR ou pour tout le match
non, que la VAR.
Que la VAR, d'accord. La VAR.
Ouais, ouais. Mais j'espère que ce n'est pas tout le temps, parce que sinon, avec des Italiens en plus, on va c'est entendre ça. Que l'arbitre. Hein, on n'entendra plus rien d'autre.
En tout cas, ça doit aussi être prolongé dans le mondial des clubs l'été prochain. Bon, eh bien, Matteo, on y reviendra donc à ce sujet. Merci beaucoup, Matteo, d'avoir été en
merci
direct avec nous pour parler de cette Bianconeri, de cette vieille dame qui va si mal. On s'arrête quelques instants en musique avec le jeune rappeur Benjamin Epps, connu aussi sous le nom de Epsito, d'origine gabonaise. Le titre à écouter, 375.
Prie pour toi, donc prie pour moi. Chez moi, les gars pap avec les mots. Ils vendraient les gens pour un euro. Vigilant ici, l'amour is space. Vigilant dans nos têtes, c'est les states. La rue peut t'avaler pour de bon. À critiquer, les gros se font un nom. T'es vu comme un paria quand tu lis. Négro, attention à ce que tu dis. Sinon, tous les liens tissés s'écroulent. L'amitié c'est fragile mais c'est cool. Lâchez la school, traînez au tiex avec Doudou et Doul. Combien les matins mes négros sont agiles au mouvement de foule. Quand y'a pas à manger, place tes sables. Quand y'a pas à manger, arrache tes sacs. Ces gens sont les gosses pour qui je prie. Ce coin du monde a fait de moi qui je suis. Viens je t'emmène chez le jeune là où cette chaîne de vie est moche. Chaîne de vie qu'on aime. Cinq gosses de cinq pères différents. Ça n'est pas étrange, c'est juste différent. La bouteille est vide et l'esprit est vil. Donc le petit est Yves, mais le petit est big. Les études c'est bien, mais c'est trop long. Ce qui va t'aider l'ami, c'est ton nom. Ce que tu fais, qui tu connais, qui tu pèses. Est-ce que t'es en place, est-ce que tu pèses. Viens voir autour, ça sent la pisse et les poubelles dans la street, les individus coureux. Les gens n'ont rien à faire de tes discours à la fin, ce sera toujours qu'est-ce que tu vas faire pour eux. Comment tu traites les tiens, c'est révélateur. On méprise les faibles et les délateurs. Pistolet bien au chaud donc il est froid. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Chez moi les gars pap avec les... Viens je t'emmène chez le jeune là où cette chaîne de vie est moche.
375 sur la playlist de RFI, playlist musique, extrait de l'album L'Enfant Sacré de Bellevue.
Give me the money.
Yeah, what can I do for you?
Show me the money.
It's not show friends, it's show business.
Hey, I'm talking about money, huh?
Et on va parler gros sous, gros sous. Comme chaque année, la grille des salaires des joueurs du championnat de France a été publiée hier. Pas de surprise véritablement, n'est-ce pas Eric? Les joueurs du PSG continuent à occuper le 11 des mieux payés.
Surprenant, même très surprenant, le 12, je suis désolé.
Même le 12, parce que le 12e, eh bien, c'est aussi un joueur du PSG.
Sans parler de l'entraîneur.
Là, je m'attachais aux joueurs. Parce que les entraîneurs, ils ont une carrière plus longue que celle des joueurs, quand
même.
Et le premier, 13e, qui n'est pas du PSG, bah, c'est un ancien du PSG, quand même, mince, c'est Adrien Rabiot. Ensuite, on a beaucoup de joueurs de l'OM et de l'OL. Il y a ce Rennes aussi qui se taille une petite place. Bon, c'est finalement pas très surprenant. Alors, sur le podium, disons-le, au moins les premiers, les vainqueurs, c'est Dembélé. Puisqu'il n'y a plus Mbappé hein, en France, Dembélé, Marquinhos et Hakimi. Hakimi, premier joueur africain. Ensuite, pas trop loin, on aura Bennacer et Kondogbia, autres joueurs africains. Alors, c'est toujours une sensation quand même quand on parle des salaires, parce qu'ils apparaissent énormes hein, quand c'est pour Dembélé 1 500 000 euros par mois. n'est-ce pas? Marquinhos, lui aussi, plus d'un million. Achraf Hakimi, 1 100 000. Mais finalement, quand même, Eric, on pourrait aussi relativiser en se disant que le top de la carrière, des années où ils gagnent autant les joueurs, ça dure peut-être pas si longtemps. Oui. Et il y a eu une étude intéressante qui disait que 40% des footballeurs professionnels en Europe, alors évidemment j'élargis à beaucoup d'autres championnats que celui de France, mais ils n'ont plus d'argent 5 ans après la fin de leur carrière.
Ouais, alors après ça va changer un peu aujourd'hui parce que t'as l'Arabie Saoudite qui est rentrée dans la danse, donc du coup...
Mais avant on allait faire fortune aux États-Unis.
Ouais, mais bon, oui, mais MLS, c'est quand même pas la même fortune, si j'ai envie de dire. Là aujourd'hui, ce qu'on propose à Fofana, je suis pas sûr qu'aux États-Unis il aurait gagné ce qu'il a gagné en Arabie Saoudite.
Les joueurs aujourd'hui sont payés beaucoup plus tôt dans leur carrière.
Oui, c'est ça.
Moi je trouve qu'aujourd'hui les carrières sont plus longue ou pas, je ne sais pas, mais elle commence plus tôt. Ils sont payés. Regardez le salaire de Zaïre Emery.
Non, mais c'est un...
Moi, oui. J'ai halluciné. Zaïre Emery.
Il va avoir 18 ans, c'est ça ?
Il n'a pas 18 ans, pas 19 ans.
950 000.
Après lui, c'est un projet. C'est-à-dire que, en dehors de. Non, mais, non, mais j'ai envie de dire.
Non, mais c'est
en
intéressant
de
parce qu'on s'arrête toujours aux sommes, mais parlons du contexte.
Là c'est vrai. Là pour un Zaïre Emery, c'est différent. Alors, ça n'a rien à voir avec. Enfin, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir avec son niveau, puisque c'est quand même un très bon joueur. Mais en dehors de ça. Ça, c'est un projet, c'est-à-dire que on s'installe sur la comme ça pouvait correspondre à des quand tu signais 8 ans ou 12 ans à l'époque là à Marseille où il y avait les Luxin, ils ont signé des gros contrats pour dire je t'installe
sur le projet, d'accord, je comprends, on veut le garder, c'est l'emblème, etc. Mais ça te choque pas qu'il
bien
ait sûr, un salaire plus important que Vitinha,
évidemment,
que Kvaratskhelia?
Mais après tu
mais où la progression pour lui après?
Kvaratskhelia, c'est différent, il arrive de l'extérieur, il a moins d'imposition, c'est différent quoi. Il y a encore un calcul qui est un peu différent. Aujourd'hui ce qui est différent, c'est que là par exemple tous ceux qui sont devant à part Dembélé, c'est des nouveaux contrats, c'est-à-dire c'est des prolongations de ce qu'ils avaient déjà avant. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils n'étaient pas comme un Nuno Mendes qui était à je sais plus combien il était.
34 mais prolongé,
voilà, ils ont été prolongés il y a moins d'un an. C'est ça la différence. Mais c'est évidemment énorme. Mais c'est même pas eux à la limite. Pour les joueurs du Paris Saint-Germain, on ne devrait même pas parler des joueurs du Paris Saint-Germain, parce que c'est tous les autres, en fait. Tous les joueurs qui sont, pour moi, c'est beaucoup trop. Dans certains clubs, c'est beaucoup trop. Ounou qui n'a pas joué une minute de jeu, alors, qui est payé, je ne sais pas combien.
Prenez Kimpembe.
Bah, Kimpembe, après, c'est une blessure. Il est blessé depuis deux ans.
C'est quand même 640 000 euros.
Ah, bah oui.
En tout cas, l'UNFP a lancé en 2018, quand même, une formation, gérer son argent, justement, pour apprendre un peu aux joueurs à être prudents. En tout cas, Philippe, cette Ligue 1 dont on parle, on a longtemps parlé du feuilleton des droits, et ça continue d'ailleurs un peu. C'est quand même un championnat en crise. Est-ce qu'on est étonné des salaires pratiqués dans ce championnat alors que finalement, c'est pas le plus important des championnats européens, des 5 grands championnats en tout cas?
Non, mais les rémunérations sont inférieures à beaucoup de championnats. Les grands championnats payent encore mieux leurs joueurs, bien
évidemment.
Oui,
on sait qu'en Angleterre, mais eux, ils ont...
Par contre, ce qui est flagrant dans ce... cette publication, c'est qu'on se rend compte à quel point les dirigeants n'ont absolument pas anticipé une baisse des revenus de leur club. Mais pas du tout.
Sûr.
Ils ont cru, ils ont écouté Vincent Labrune, le milliard ou pas loin, enfin ça va aller, tout va aller bien, etc. Et ils ont anticipé malheureusement dans ce sens-là, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un dirigeant de club, aujourd'hui, il sait d'emblée qu'il faut sortir 20 millions à la fin de l'année. Et même dans des clubs niveau Montpellier, Angers ou autre, c'est problématique.
Il y a des clubs comme Lens qui commencent à anticiper un peu.
Ils ont très bien anticipé.
Ouais, franchement, c'est pas mal.
Ils sont critiqués parce qu'ils ont vendu les meilleurs joueurs. Philippe, mais en même temps, il faut se mettre à la raison.
On se souvient à Angers l'autre fois qu'il n'a pas pu honorer les salaires de ses joueurs pendant quelques semaines, on va dire.
C'est des problèmes de trésorerie classiques dans les clubs de foot, mais d'habitude, c'est plutôt mars-avril quand on a déjà épuisé les abonnements, les rentrées des sponsors et autres. Et en général, au mois de mars, on commence à grincer un petit peu. Okay. Là, c'est en janvier quoi, que les clubs ont grincé. Vous citez Angers, à Reims, président a été obligé de faire un chèque de 7 millions pour mettre à la trésorerie, sinon les salaires
joueurs
ne passaient pas.
Et de
vendre deux joueurs importants. Voilà, en fait, tout le monde aujourd'hui est aux abois. Montpellier, si le club descend, ils sont à moins 20 millions sur cette saison. Enfin, il n'y a pas besoin de descendre ou pas, d'ailleurs. C'est pareil.
Après, si tu regardes les différents clubs, je ne veux pas dire de bêtises, mais par rapport à ce que je me rappelle, c'est des clubs comme Toulouse ou comme peut-être Angers ou je ne sais plus, mais qui sont dans la réalité des chiffres
que tu dois donner.
Voilà, dans la réalité des chiffres c'est-à-dire valeur de joueur. Et donc ce que tu dois donner réellement à parce que là je pense qu'ils ont craqué, ils ont craqué, ils se sont transformés, je me dis mais c'est incroyable de perdre la tête.
Contradiction entre le championnat de France qui est réputé pour être le centre de formation de toute l'Europe, les meilleurs centres de formation sont en France, et pourtant on arrive encore à donner des salaires importants.
C'est incroyable.
C'est pour ça. Alors après chacun des systèmes différents, parce que le PSG c'est quand même la plus grosse masse salariale d'Europe. Marseille, c'est différent. Marseille, ils font des coups, ils font des prêts, des joueurs libres. Donc, c'est normal que
Rabiot, c'est normal,
t'as pas payé de transfert. Donc, tu transformes dans le. Là, ça peut se comprendre.
Monaco a un statut particulier fiscalement. Nice appartenait à Ineos. Donc, il y a aussi des cas un peu spéciaux. Mais effectivement, il y a plein de petits clubs qui sont en grand danger.
Mais d'ailleurs, ce que reproche souvent, alors ce qu'il y a de bizarre quand même, Philippe, et en France, c'est que la DNCG, théoriquement, qui est ce qu'on appelle le gendarme des clubs et qui essaye de faire tenir les finances des clubs dans les clous, n'est pas fixé d'exigence, par exemple, que les salaires ne doivent pas représenter, je sais pas, par exemple, plus de 60% des dépenses d'un club ou quelque chose. Vous pensez qu'on va y venir
en Angleterre, d'ailleurs. Non, en fait, En France, le football français vit de clichés. On est les meilleurs centres de formation du monde. Oui, à certains moments, puis il y a des moments où c'est moins vrai.
Ça dépend des générations.
Oui,
aussi.
On est le championnat le plus exportateur de talent quand même.
Oui, oui, non, ça c'est un fait. Mais d'abord parce que nos joueurs ne sont pas très chers. Et ça aide beaucoup. Et ça aide énormément à ce qu'on vende beaucoup plus que d'autres. L'autre cliché, la DNCG. Nous, on est hyper rigoureux, etc. C'est faux. La DNCG, elle a devancé bien des pays. Hein. Ça, c'est vrai, on était en avance là-dessus. Mais ça, la principale mission de la DNCG a toujours été d'éviter que les clubs fassent faillite. C'est la priorité. Mm-hmm. Mais pas du tout l'équité. Donc, on peut faire tous les déficits qu'on veut, regarder le PSG. Pas de problème du moment qu'on paye. Le Qatar, il paye, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème.
L'exemple de Lyon et Textor est parlant, pour le coup.
Absolument.
C'est la négociation, c'est la discussion de la négociation. En Angleterre, aujourd'hui...
Deal, vous voulez dire ?
Non, mais la manière de donner des garanties, par exemple. En Angleterre, si un club perd plus de 105 millions de livres sur 3 ans, sur un cycle de 3 ans, il a des points de pénalité. Il est sanctionné financièrement.
Everton, Nottingham Forest, plein ont été sanctionnés.
Et à un moment donné, il faudra arriver à ça en France, en fait. S'il y a des clubs qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent...
Ils vont s'y mettre, enfin. Mais il a fallu que le ministère se bouge, que les sénateurs se bougent. Et on va enfin mettre une DNCG qui sera plus proche du fair play financier. Car c'est ça le véritable objectif, qu'on ait une inéquité dans la compétition.
Oui, mais combien d'années t'as eu le Real Madrid où le roi remettait un peu...
Mais c'est des âneries. C'est faux. Mais tout est faux. On raconte des histoires, on n'y connaît rien.
C'est pas possible.
Là, on parle de clubs qui sont possédés par des socios. C'est pas pareil. Il n'y a pas de Ineos, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de mecs qui mettent des centaines de millions comme ça sur la table. On devrait prendre modèle, non pas sur l'Espagne, qui n'est pas le modèle, mais on devrait regarder ce qui se fait en Allemagne.
Là, on
peut parler de véritable gestion des clubs. Et là, nous, on est à des années-lumière de ça.
Et ça ne les empêche pas de briller sur la scène européenne.
Exactement.
C'est pas en payant plus cher qu'on a des meilleurs résultats.
Au contraire. Et même pas les plus grands clubs, parce qu'on parle tout le temps du Bayern. Mais regardons le Bayer Leverkusen, qui est venu aussi très loin, qui avait été en déficit sanctionné. Le Dortmund n'est pas non plus ultra puissant.
Après, l'Allemagne est particulière parce que c'est un état d'esprit.
Oui, mais elle cultive son modèle aussi.
Oui, mais c'est un état d'esprit. Il y a le côté financier et il y a le côté football.
Oui,
et
mais
en fait,
elle,
quand tu regardes juste dans l'esprit football...
Elle ne s'est pas ouverte à des capitaux qui viennent de qui ne sont pas toujours très sains.
Ouais. Après, tu as Leipzig
Avec Red Bull, mais malgré tout, c'est un groupe européen identifié, c'est un petit peu différent. Mais là, quand les capitaux viennent, on voit bien. Et puis là, par exemple,
d'investissement.
Ils viennent, ils partent.
Là, il y a des clubs qui risquent
France,
de disparaître, il faut dire les choses.
Bah,
donc, c'est pour ça qu'il faut que la DNCG prenne des mesures importantes, quitte à ce que ce soit étalé sur des années, qu'ils ne meurent pas les faire mourir tout de suite, évidemment. Mais prendre des mesures importantes, parce que l'avenir, sinon... On ne sait pas combien d'années les droits à télé vont être très bas. Ça se trouve, c'est à vie. Plus jamais on aura des chiffres comme on l'avait avant. Il faut s'habituer à ça et mettre des normes telles que tant pis, si on devient moins compétitif, tant pis, parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de le financer. Si on n'est pas capable de le financer, tant pis pour nous.
Oui, plutôt que d'exposer effectivement des employés, des
institutions,
des clubs.
La différence, c'est que les clubs en France, ils peuvent disparaître, sans problème. Le Real ou le Barça, ils disparaîtront jamais.
Des fois, ils peuvent renaître. Le stade de Reims avait disparu, son stade a été rasé, puis finalement...
Aussi,
Bon, mais là...
On verra Bordeaux.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci à tous. Demain, c'est le Café des Sports. N'oubliez pas vos cartons. Merci.